Le journal était signé Mathieu Laurent, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Le pape est à la mode. Les magazines du monde entier lui ont consacré des couvertures. Il a aussi été désigné personnalité de l'année par Time Magazine. On en parlera tout à l'heure avec Frédéric Carbone, notre correspondant à Washington. Un hebdomadaire, Il Mio Papa, Mon Pape, a été lancé cette année, entièrement consacré au pape François. Et c'est un succès. Pourquoi un tel engouement pour le pape François, qui lors de ses déplacements rassemble plus de monde qu'une rockstar? Selon le quotidien italien La Stampa, la popularité du pape François est basée sur son style. Il est proche des gens, il est aimé des catholiques de gauche et même des non-croyants. C'est aussi un pape qui tweet et qui porte des bracelets en élastique, les bracelets Rainbow Loom comme Kate Middleton, David Beckham ou Julia Roberts. C'est comme des millions d'enfants et de plus grands. Un pape qui semble aussi apporter un nouveau point de vue sur des questions importantes comme l'homosexualité et les personnes divorcées et remariées. Et en France, la presse est-elle devenue papophile? Eh bien, on va en parler ce matin avec nos invités dans le secret des sources sur France Culture. Avec nous en studio, quatre journalistes, quatre grands spécialistes des religions. Isabelle de Gaumin, responsable du site lacroix.com, et votre livre « François, un pape pour tous » a été publié au Seuil. Bonjour.
Bonjour.
Bernadette Sauvager de Libération, vous avez publié aux éditions du CERF « Le Monde, selon François, soit les paradoxes d'un pontificat ». Bonjour.
Bonjour.
Jean-Marie Guénoir, rédacteur en chef au Figaro et chef du service religion du journal. Et vous, vous publiez « Jusqu'où ira François ?» chez La Thèse. Bonjour.
Bonjour.
Et notre consoeur de France Inter, Laetitia Saavedra, chargée des religions, de la laïcité et de la famille. Bonjour.
Bonjour.
Nos deux experts de l'émission, Mariette Darigrand, notre sémiologue très écouté du secret, et Thibaut Henton, toujours connecté pour le web et les images. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour à
tous. Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy, avec aux manettes à la console Jean Frédérics. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Santé Lia.
Santé Fré. Buonasera. E adesso incominciamo.
Et à présent, nous allons commencer ce chemin de l'Église de Rome, qui doit être le même que le chemin de toutes les églises, c'est-à-dire un chemin de fraternité, d'amour et de confiance entre nous.
Santa Maria Mater Dei. Santa Maria Mater Ecclesiae. Santa Maria Salus Populi Romani.
Je sais que c'est un très bon pape qui est très humain, très proche des gens. Et j'ai beaucoup d'affection pour ce pape-là. Donc ça me touche beaucoup qu'il vienne chez nous. Et le fait de le voir dans les lieux familiers, qui me sont familiers, c'est très émouvant quoi, pour moi.
C'est des moments uniques dans notre vie, dans notre ville, dans notre cathédrale. C'est extraordinaire. Et c'est un pape vraiment qu'on aime fort.
Le pape vient pour un message de paix, voilà, où il y aura le respect de chacun dans la fraternité, quoi, dans l'unité.
Alors vous venez d'entendre un extrait du premier discours du pape François le 13 mars 2013. La litanie des saints pour les obsèques de Jean-Paul II en 2005. Et puis vous avez entendu également les réactions de fidèles interrogés à Strasbourg lors de la visite du pape François au Parlement européen et devant le Conseil de l'Europe le mois dernier. Alors le pape est toujours très aimé, Jean-Paul II, bien sûr, mais également Benoît XVI, pour ne citer que les deux prédécesseurs du pape François. Mais le pape François, c'est différent, visiblement. Comment expliquez-vous cet engouement, cette grande sympathie du public pour le pape, et je ne parle pas de l'amour des fidèles, Bernadette Sauvager?
Moi, je dirais que je crois que le grand travail de Bergoglio, les semaines et les mois qui ont suivi, ça a été, on va dire, de mettre en accord le message et le messager. Je crois que pour nous qui étions à peu près tous à Rome, enfin, on était tous à Rome, c'est vrai que ça a été une bourrasque, les 24 heures, 48 heures, le fait qu'ils repartent à la maison Sainte-Marthe dans le bus. Qui refuse les pompes rouges, enfin les chaussures rouges, pardon, qu'il aille à la messe, dans la petite église là, près du Vatican. Il y avait ce pape qui devenait très modeste, humble. La croix qui garde sa croix de Buenos Aires, une croix en métal argenté, non pas la croix en or. Enfin, il y a tous ces éléments-là. Et je crois que c'est un des grands axes, hein, je pense, en tous les cas, de la première partie du pontificat de Bergoglio, c'est de mettre en accord le message et le messager. Et je crois que voilà, c'est une façon aussi pour lui de rendre crédible son institution.
Isabelle de Gomain, le pape devient une star à ce moment-là.
Oui, moi je crois que dès le début, déjà le prénom, c'est vraiment une idée géniale. François, personne n'avait osé. Il faut savoir qu'en Italie, François, c'est le patron de l'Italie. Donc tous les Italiens, ils ont tout de suite compris le message. Et je crois rien que de dire François, ça a déjà détendu les choses. Et puis moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est comment dire, sa manière de se situer par rapport à l'institution. C'est-à-dire que c'est vrai que Benoît XVI, lui, se situait vraiment dans l'institution. Et François, finalement, se situe un peu à l'extérieur, puisqu'il passe son temps à engueuler l'institution. Il passe son temps à engueuler les prêtres, à engueuler les évêques, à dire « mais vous faites pas, vous êtes pas là où vous devez être, vous êtes trop riche, enfin, etc. » Donc finalement, il reprend à son compte un peu toute cette critique de l'institution, qui était quand même très importante dans le monde catholique et au-delà du monde catholique. Donc je pense que c'est aussi une des raisons de sa popularité et du message qui a changé. C'est vrai que les gens critiquent l'institution, n'importe quelle institution, hein, qu'elle soit politique, aujourd'hui syndicale, ecclésiale, etc. Et lui, finalement, alors qu'il est quand même à la tête de cette immense institution qu'est l'Église catholique avec 1,2 milliard de personnes, eh ben, c'est comme s'il était à côté. Donc finalement, toutes les critiques, elles continuent à se faire sur l'Église, mais il n'y a plus le pape, le pape n'est plus au centre des critiques.
Laetitia Saavedra, vous sentez cette bourrasque dont parlait Bernadette Sauvager le 13 mai 2013, le fait qu'il se rapproche des gens, qu'il soit plus humble peut-être que ses prédécesseurs.
Le 13 mars 2013, oui. Moi, en même temps, j'ai un souvenir très étrange, c'est le taxi qui était très en colère, le taxi italien, parce qu'à la première vue du pape François, il dit, mais attendez, là, on sort d'un vieux, entre guillemets, hein, qui renonce, et là, on a un vieux. Taxi très, très en colère. Et ensuite, bon, il y a eu effectivement tous ces signes, ce pape jésuite qui revient vers beaucoup plus de simplicité. Et franchement, ça, apparemment, ça fait du bien aux fidèles, hein, qui ont le sourire, qui retrouvent aussi l'espoir, hein, très vite pour certains.
Ils se reconnaissent peut-être plus là, dans l'Église.
Ah,
en
oui.
2013.
Oui, oui, oui. Et puis qui attendent aussi cette simplicité, on revient vers la pauvreté, vers le message fondamental de l'Église. Ils aiment ces fondamentaux-là, finalement. Ils attendaient ça, oui.
Jean-Marie Guénois, vous êtes d'accord, c'est une star, le pape François?
Oui, c'est une star, c'est un génie du geste. Le premier geste symbolique, c'est il s'incline devant la foule, quasiment demandant à la foule de le bénir avant de la bénir. On l'a vu encore la semaine dernière en Turquie, quand il s'incline devant le patriarche orthodoxe pour qu'il le bénisse. À la mosquée également, il prie ostensiblement. Il a ce sens des gestes. À Bethléem, il fait arrêter la papa mobile devant le mur de séparation. Et tout ça est calculé. Ce n'est pas du tout un enfant de cœur, c'est un homme politique. Il pose des gestes. Donc effectivement, c'est une star parce qu'il parle un langage extrêmement simple, un langage corporel, et il parle le langage du cœur. Donc il touche au cœur de chacun, croyant ou pas croyant. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit encore une star, comme le disait Isabelle de Gomain. Il agace énormément depuis un an et demi. Et on est entré dans cette phase vraiment un peu de reflux, où à l'intérieur de l'Église, il pose énormément de questions.
Il agace les conservateurs.
Pas seulement les conservateurs, il agace aussi, ou alors tout le clergé conservateur, une bonne partie du clergé conservateur.
On va réagir, là, beaucoup de gens veulent réagir autour de la table. Continuez, Jean-Marie Guénois.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a une image dorée, il ne faut pas tomber dans l'image dorée de ce pape extraordinaire. Enfin, moi, j'essaie de ne pas tomber dans cette voie-là. On en fait une sorte de saint avant l'heure, il n'a aucun défaut, c'est un homme extrêmement autoritaire, qui est effectivement démocrate, mais qui est curieusement, paradoxalement, extrêmement autoritaire. C'est un homme qui sait où il va tout en disant que finalement on ne sait pas trop où on va, on y va tous ensemble. Bref, il conduit la réforme de l'Église à pas de charge finalement. Et là, je trouve que justement aujourd'hui, un des paradoxes et un des intérêts de se poser la question aujourd'hui, c'est de voir que nous assistons à ce basculement, un premier reflux, c'est-à-dire que cette starisation est en train, à mon avis, de s'estomper.
Alors Isabelle de Goma,
oui,
vous n'avez pas l'air d'accord.
Non, je ne suis pas d'accord du tout. Déjà, il faut distinguer entre ceux qui sont dans l'Église et ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Exactement. À l'extérieur de l'Église, ça ne fait pas de pli. Le pape est très populaire pour des bonnes et des mauvaises raisons, d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'il va tout changer. Or, il ne va pas tout changer. À l'intérieur de l'Église, moi, il me semble quand même que les catholiques sont contents. Parce que finalement, ce dont ils ont beaucoup souffert à l'époque de Benoît XVI, que eux ne détestaient pas, mais c'était l'image que renvoyait l'Église d'elle-même, qui n'était pas l'Église dans laquelle ils vivaient. Les catholiques, vit bien dans son église, il est pratiquant, il a une communauté qui est chaleureuse, etc. Et par ailleurs, il y avait un Benoît XVI qui renvoyait cette image d'une église très dure, avec des mots qui n'allaient pas, avec beaucoup de gaffes, etc. Donc je pense que la majorité des catholiques sont plutôt contents. J'en suis même persuadé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une minorité, effectivement, dans le clergé et dans l'église catholique, qui ont besoin de certitude ou de vérité comme ça, et qui finalement sont un peu gênés, bousculés par ce pape qui bouscule les certitudes, qui dit ce qu'il a dit pour le synode pour la famille. Il a beaucoup dit, bah écoutez, c'est aussi à vous de prendre vos responsabilités, c'est à vous, évêque, de finalement répondre devant vos fidèles de ce que vous voulez faire. Donc c'est quelqu'un qui met sans arrêt les gens devant leurs propres responsabilités, qui les engueule beaucoup, effectivement, il engueule beaucoup le clergé, mais il engueule aussi les catholiques, il est très exigeant en réalité. Donc c'est vrai que ça bouscule, mais moi il me semble qu'il est encore très largement populaire, les gens sont soulagés quand même. C'est, pour un catholique, c'était un peu lourd à porter, cette espèce d'image très négative qui collait à l'Église catholique.
Bernadette Sauvager.
Il y a une proximité des classes populaires, je crois. Enfin, Et pour revenir au pape du geste, et le geste est un langage universel. Je crois qu'il y a eu des choses très très belles. Hein, l'handicapé sur la personne handicapée là sur la place Saint-Pierre qui prend, voilà. Et puis des choses marrantes. Le curé de Buenos Aires qui fait monter dans la papa mobile. Enfin, il y a une espèce de transformation de Bergoglio qui n'était pas très très comme ça à Buenos Aires. Et c'est même une énigme parce que il bascule entre Buenos Aires et Rome, quelqu'un qui est plutôt austère, qui n'est pas très très sympathique, à quelqu'un qui devient tout d'un coup hyper chaleureux, etc. Ça a beaucoup intrigué à Buenos Aires. Moi je crois qu'il reste populaire, mais c'est un pape polémique, oui, et qui va être de plus en plus polémique. Et qui met très mal à l'aise certains courants conservateurs dans l'Église catholique. Je crois qu'une majorité de la Manif pour tous attend avec impatience que ça se termine.
Laetitia Saavedra.
Oui, populaire. Je fais souvent des reportages à la sortie des églises et des messes. J'ai dû avoir une fois sur je ne sais combien de reportages quelqu'un qui m'a dit, alors oui, effectivement, dans un dîner, on m'a dit qu'il ne faisait pas assez pape, mais le reste des gens sont le sourire aux lèvres en me disant, on est vraiment soulagés, Benoît XVI. On n'en pouvait plus, ils le disent carrément comme ça. Hein. Donc, et moi, une deuxième image qui m'a beaucoup marquée, c'est qu'un jour, j'étais en mars, place Saint-Pierre. Il faut savoir que tous les mercredis, le pape remplit l'équivalent du Stade de France, quand même. Hein. Benoît XVI, il faisait ses audiences générales, je crois, dans une petite pièce fermée. Là, c'est la place Saint-Pierre entière qui est remplie. Sa papa mobile, il faut quand même savoir, on le voit, mais elle n'est pas blindée, et elle est totalement découverte. Il est dans la foule pendant une heure et demie. Après, il descend, après avoir fait un trajet en voiture, il serre la main des gens. Et c'est tous les mercredis comme ça. C'est assez étonnant quand même. Hein, c'est...
La place Saint-Pierre remplie, la plage de Copacabana au Brésil pour les JMJ, 3 millions de personnes. C'est aucun chanteur ne fait cela, Jean-Marie Guénois.
Évidemment, mais comme disait Bernadette Sauvager, c'est un pape polémique. Mais peut-être qu'à trop promettre, certains lui font un procès en démagogie déjà, qu'à trop promettre, et c'est bien la question des questions sur la famille, l'homosexualité, risque de beaucoup décevoir.
Alors sur la communication du pape, on va écouter Federico Lombardi, directeur du service de presse du Vatican et de Radio Vatican.
L'efficace d'une communication, ça dépend de la spontanéité de l'être. On dit, on fait ce qu'on est. En François, on apprécie la spontanéité avec laquelle il parle par la fenêtre pour l'Angélus ou dans la messe de Sainte-Marthe. Sa manière d'être s'est manifestée médiatiquement très efficace, très capable de communiquer un message. Alors, il n'y avait pas beaucoup à faire pour les spécialistes de la communication, car je dis toujours, mais la question de la communication, c'est si le message est là et si la personne qui parle communique spontanément son message avec sa manière d'être. Hein. Alors, dans ce sens, je dis, alors, il n'y a pas une construction de la communication autour du nouvel pape.
Voilà, il est communicant à lui tout seul, c'est un expert en com, dit Federico Lombardi. Vous disiez, Jean-Marie Guénois, que c'est un homme politique. C'est un peu moins romantique d'entendre cela, Isabelle de Gomin.
Bah, il a dit de lui-même qu'il était malin, furbo en italien. Il est effectivement très malin, donc effectivement, il sait où il va. Mais ce qui est drôle, c'est pas, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est démagogique ou quand on voit ce qu'il a dit, par exemple, aux parlementaires européens. C'était très vigoureux.
On va écouter un extrait dans un instant.
Et où il a quand même parlé à un moment de cette Europe où on assassinait les enfants avant qu'ils naissent. Donc il a quand même très explicitement parlé de l'avortement. Ça, c'est effectivement quelque chose que le Benoît XVI avait souvent dit, mais de manière peut-être plus alambiquée, ou alors en parlant de l'avortement, mais de manière en condamnant. Lui, il a eu des mots très simples et c'est passé. Alors que ce genre de choses, normalement, ça fait scandale. Donc, c'est, pour moi, il n'est pas du tout démagogique, ça, c'est pas vrai. Et il n'est pas ni conservateur, ni gauchiste, ni rien du tout. Il est juste dans la ligne de l'évangile. Ce qu'il y a, c'est qu'il a une manière de le dire, effectivement, qui est peut-être plus rude et qui est plus simple et qui marche bien. Mais ce qui est rigolo, c'est que Lombardi, c'est donc le père Lombardi, c'est le porte-parole du pape François, c'était le porte-parole de Benoît XVI, donc le même porte-parole. Mais effectivement, comme quoi, on voit que ça ne fait rien, le porte-parole, et que la communication ne fait rien s'il n'y a pas derrière un pape qui tient la route.
Alors, le pape François à Strasbourg, on écoute.
Nous ne sommes plus en mesure de construire d'authentiques relations humaines, empreintes de vérité et de respect mutuel. Ainsi, aujourd'hui, nous avons devant les yeux l'image d'une Europe blessée à cause de nombreuses épreuves du passé, mais aussi à cause des crises actuelles qu'elle ne semble plus capable d'affronter avec la vitalité et l'énergie d'autrefois. Une Europe un peu fatiguée, pessimiste, qui se sent assiégée par les nouveautés provenant d'autres continents. À l'Europe, nous pouvons demander où est ta vigueur, où est cette tension vers un idéal qui a animé ton histoire et l'a rendue grande, où est ton esprit d'entreprise, de curiosité, où est ta soif de vérité, que jusqu'à présent tu as communiqué au monde avec passion.
Extrait du discours du pape François à Strasbourg au Parlement européen. L'Europe est fatiguée. C'est d'ailleurs comme cela que vous titrez votre article, Jean-Marie Guénois. Pour Libération, c'était « Le pape cherche la racine curée ». Et dans La Croix, « Europe, où est ta vigueur ?» Une phrase prononcée par le pape François. Alors on y revient dans un instant parce que ce voyage à Strasbourg a suscité beaucoup de commentaires. Je vous propose d'en écouter un diffusé sur RTL.
C'est l'histoire d'un pape qui se rend à Strasbourg et ignore la cathédrale. Comme un musulman irait à Jérusalem sans prier à la mosquée d'Al-Aqsa. Le pape François parle des racines de l'Europe, mais ne précise jamais qu'elles sont chrétiennes. Il exalte la spiritualité, mais prononce à peine le nom de Dieu et pas celui du Christ. Il dit droits de l'homme, solidarité, exploitation, diversité, écologie, mondialisation, immigration. Mais il ne dit pas avortement, euthanasie, mariage homosexuel. Il dit les mots qui plaisent, pas les mots qui fâchent. Il prône l'accueil généreux des migrants en ignorant que ces vagues incessantes dans la Méditerranée transforment peu à peu l'Europe en terre d'islam, et ce même si tous ceux qui arrivent à Lampedusa ne sont pas musulmans. Vatican II avait bouleversé les repères liturgiques des chrétiens. François semble décidé à brader leurs repères culturels et cultuels.
Le polémiste Éric Zemmour qui adresse des reproches au pape, on l'a choisi parce qu'effectivement on a beaucoup entendu ou lu que le pape n'avait pas parlé des racines chrétiennes de l'Europe notamment. Et puis le débat a pris corps sur les réseaux sociaux. Bernadette Sauvager, je vous vois réagir, envie de réagir.
Ah ouais, moi je trouve que, j'ai écrit qu'il a fait du Ratzinger ce jour-là, quoi. C'est plus soft, c'est moins cash. Mais c'est là. Enfin, je veux dire, il ne le dit pas, mais il le pense très fort, que l'Europe a des racines chrétiennes. Et d'ailleurs, il l'interpelle en permanence. Quoi. Qu'est-ce que tu as fait de tes racines ? Je crois que c'est dit sans être dit tout en étant dit. Quoi. Et je trouve que Zemmour, enfin, il n'a pas écouté le discours. Quoi. Enfin, c'est clair. Enfin, moi, je pensais que la sortie sur les enfants à naître allait faire polémique. Enfin, moi, je l'ai écrit tout de suite. Je pensais que... Parce que dire cela devant les parlementaires européens, au Parlement européen, moi, j'ai scotché, quoi. Enfin, et plouf, ça a fait... Pchit. Ça fait pchit, quoi. C'est ça, c'est extraordinaire. Juste, je trouve que, encore pour revenir un petit peu en arrière, je pense que François est arrivé aussi à un moment où il y avait un vide de leadership. Obama a déçu, et tout d'un coup arrive ce personnage qui occupe cette place. Et je crois que ça marche encore parce qu'il continue à occuper cette place.
Jean-Marie Guénois, François a fait du Ratzinger.
Non, moi je pense que le fait qu'il condamne l'avortement, il fait son métier de pape. Là, pour le coup, il n'aurait pas fait que ça aurait beaucoup étonné et interrogé. Je crois que ce n'est pas un pape clérical. Il n'en a rien à faire, lui, de l'Église des froufrous. Ce qui l'intéresse, c'est l'homme, les droits de l'homme, certes, mais aussi l'homme religieux, l'homme debout. Enfin, il cherche à rejoindre un peu à la Jean-Paul II. Donc, il le fait avec son style latino-américain, rentre dedans, quand même, parce que l'Europe grand-mère, il faut quand même l'entendre, hein, l'Europe stérile et tout ça. Il y va. Maintenant, je pense que la grande erreur, il était très mal conseillé sur Strasbourg, c'est que ça lui coûtait quoi? Et je suis d'accord avec Zemmour juste sur ce point-là. Ça lui coûtait quoi d'aller à la cathédrale, faire une demi-heure aller-retour d'aller...
Ah ben il dit que c'était une visite aux institutions européennes. Hein.
Oui, non, mais franchement,
la cathédrale. Ouais.
Non, mais franchement, moi je l'ai écrit justement. Strasbourg ne vaut pas une messe pour le pape. Ça lui coûtait
quoi?
Vous
dites que c'est tristouné cette visite.
Oui, j'ai trouvé ça affreusement triste parce qu'habituellement une visite sur tout ça avec ce pape-là, il déclenche des monceaux de popularité. Et là, il y avait personne dans les rues. Donc ça lui coûtait quoi? D'aller faire un tour à la cathédrale, de prier en silence, 10 minutes, ça aurait été beaucoup plus parlant que n'importe quelle homélie, et de rentrer, parce que la cathédrale de Strasbourg, c'est comme le symbole de toutes ces divisions européennes, c'est le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, c'est une Europe qui se déchire, donc il aurait pu faire un coup formidable, et il ne l'a pas fait, je pense qu'il était mal conseillé, ça manquait au voyage.
Mariette Darigrand, notre sémiologue, quelles sont selon vous les raisons de cet engouement pour le pape François?
Je pense qu'il y en a trois, il y en a une qui tient à la forme, vous l'avez tous un peu dit, le geste, le messager qui devient le message, enfin, des choses comme ça. C'est ce que les observateurs du discours people planétaire aujourd'hui appellent une iconic value, il a une valeur iconique, on voit tout de suite qui c'est et on voit tout de suite pourquoi on veut aller vers lui, son magnifique sourire en forme de smiley, quasiment, c'est une marque qui se voit tout de suite.
C'est ça, c'est une marque, Mariette.
Mais c'est quelque chose qui est réappropriable tout de suite, vous l'avez dit. Les gens sourient, on sourit ensemble. Donc ça, il n'y a pas que lui qui fait ça. Il a très bien compris les règles de la jet set planétaire aujourd'hui. C'est un pape connecté, c'est un pape planétaire qui vient du monde émergent et qui est parfaitement bien dans le monde occidental, hyper numérique, hyper connecté. Donc c'est un pape média, au fond. Hein. Je crois qu'il fait même des messes qu'il met lui-même sur le... Enfin, que le Vatican met lui-même sur le web. Il y a des choses comme ça. Ça, c'est sur la forme. Il est vraiment ancré dans notre monde. La deuxième... Et du coup, il parle comme les journalistes et comme les internautes, etc. Il est comme nous. Deuxième point, sur le fond, c'est plus intéressant. Je crois qu'il parle des deux manières divines que nous avons, nous, Européens, et peut-être nous, d'ailleurs, Français. Il parle comme Jésus, donc il a la parabola Christi, c'est une parole, vous l'avez très bien dit, c'est le geste, c'est la parole incarnée, c'est la chair qui parle. En même temps, il le fait avec son habit blanc, très important, il a plus l'hermine, la richesse, etc. Il est un homme humble, comme lorsqu'il était effectivement simple, disons, curé de Buenos Aires. Donc ça, c'est comme le Christ. D'ailleurs, quand il a dit à propos des homosexuels, qui suis-je pour juger, c'était une parole christique. Donc il sait le faire. Deuxième chose, il parle comme Dieu aussi au sens verbum Dei, c'est-à-dire c'est là où ça devient plus intéressant par rapport à notre monde désenchanté. Il a une parole d'autorité forte sur des enjeux énormes qu'il arrive à dire simplement. Donc ce simple, sophistiqué, après complexité dans un monde complexe, arriver à donner un big issue, un gros enjeu fondamental, le bien, le mal, la foi, le désenchantement, les riches, les pauvres, la morale et la mafia, des choses comme ça, eh bien, évidemment, comme vous l'avez dit, ça fait du bien à tout le monde. Pourquoi ? Pas en dehors même de la foi. Ça fait du bien à l'intellect aussi, parce que nous avons trop peu de paroles d'autorité substantielle intéressante. Et c'est intéressant que vous ayez mis Zemmour, parce que lorsque le simple étayé ne marche pas, eh bien, on verse dans le simplisme. Nous avons besoin aujourd'hui, sur des gros enjeux, d'avoir des paroles intelligentes, moralement discutables, mais qui peuvent dire quelque chose de la complexité du monde.
Alors Marie Dagran, vous parliez d'un pape média, d'un pape connecté. Thibault Henneton, notre regard multimédia dans Le Secret des Sources, c'est vrai, François, le pape François est un pape connecté.
Excuse me, because I speak in Italian. È una lingua più semplice e più autentica.
Donc on entend là le pape François tweeter sous le nom @pontifex en 9 langues, dont le latin et l'arabe. Le pape tweet, ou plus précisément valide les tweets qui sont écrits en son nom. Environ un tweet d'une centaine de caractères tous les 2 jours, une petite phrase, une prière. Par exemple, mardi dernier, « Plus jamais d'esclaves, nous sommes tous frères et sœurs ». End slavery et autres propos provocateurs. Le compte en langue anglaise est le plus suivi, avec près de 5 millions de followers, suiveurs ou fidèles. C'est amusant d'ailleurs de voir combien le vocabulaire religieux se fond dans l'internet. En ligne, croyant ou pas, nous dispensons la bonne parole à nos fidèles, nous communions. Le mot français ordinateur fut créé par IBM pour traduire computer sur suggestion d'un philologue de la Sorbonne. Je le cite, ordinateur. Voilà un mot correctement formé qui se trouve même dans le littré comme adjectif désignant Dieu qui met de l'ordre dans le monde. Fin de citation. Tout cela nous amène à cette déclaration du pape François en début d'année. Internet est un don de Dieu. Et d'inciter les fidèles à devenir des citoyens du territoire numérique. Mais ce n'est pas nouveau.
Non, son prédécesseur, Benoît XVI, plus conservateur, avait lui enjoint les fidèles à habiter les réseaux sociaux avec un style catholique.
Un style de présence catholique. Et c'est d'ailleurs lui, Benoît, qui avait inauguré le compte Pontifex le 12 décembre 2012, avec une geekerie, au passage un premier tweet envoyé le 12-12-12 à 12h12. C'est bien connu, Dieu, ce Dieu-là en tout cas, est verbe. Le verbe se révèle, s'incarne, bref, se communique. Or le verbe aujourd'hui, c'est aussi et de plus en plus le code informatique. Pas étonnant donc de voir le pape s'adapter aux nouveaux moyens de communication, malgré le sentiment d'étrangeté qui nous saisit à voir ainsi se percuter l'Église, institution millénaire, avec le dernier avatar technologique contemporain. Lors d'une émission aujourd'hui disparue, Place de la Toile, un des invités chargés de répondre à la question de savoir si Internet est effectivement un don de Dieu rappelait que l'appropriation des médias par le clergé catholique date au moins du Concile Vatican II avec le décret Inter Mirifica, même bien avant, me dit-on, adopté en 1963. L'Église parlait alors des médias de masse comme des merveilles. Ce décret déboucha sur une instruction en 1971 intitulée Communio et progressio, dont les préliminaires stipulent que communion et progrès dans la société sont les buts primordiaux de la communication sociale et des moyens qu'elle emploie, spécialement la presse, la radio, la télévision et le cinéma. Et l'Internet aujourd'hui, qui dispose de son propre patron, Isidore de Séville. Tout cela me pose question, car j'ai aussi lu sur le site de La Croix les conseils du pape François pour être heureux, parmi lesquels celui-ci: refuser le prosélytisme religieux qualifié de pire chose. Je dialogue avec toi pour te convaincre, ça non, disait François. Et donc je demande dans quelle mesure on doit distinguer l'évangélisation du prosélytisme, et je sais gré à Pontifex de susciter urbi et orbi de tels questionnements.
Thibault Henneton, connecté sur lacroix.com.
Not what I want to hear, Joanna. Got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please. Tell us it ain't so. They told us that our hero that played his trump card, he doesn't know how to go on. We're clinging to his jaw and determined smile, but the good old days have gone.
Said and So, dis-moi que ce n'est pas vrai, de Muriel, un hommage à notre ami Didier Sudre, technicien de reportage, mort brutalement la semaine dernière et dont les obsèques ont eu lieu jeudi dernier à Paris.
Crescivus et meritis beate Maria semper virginis, beati Michaelis arcangeli.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Voilà, la presse est-elle devenue papophile avec nos invités Jean-Marie Guénois, Isabelle de Gomain, Bernadette Sauvager et Laetitia Saavedra. Vos commentaires, vos réactions sur franceculture.fr. Vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster l'émission.
Il y a tant de gens qui doivent fuir l'esclavage, la faim, fuir pour trouver la liberté.
Cercando la libertà.
Et avec tant de douleurs, si souvent, nous voyons qu'ils trouvent la mort comme cela s'est produit hier à Lampedusa.
Journée de pleurs auparavant, le pape avait parlé de honte. Le pape François s'exprimait à Assise le 3 octobre 2013, au lendemain de sa visite à Lampedusa, après la mort lors d'un naufrage d'au moins 300 migrants venus d'Afrique. Alors sur un drame pareil, le pape est dans son rôle et la presse relaye bien sûr le discours. On avait reproché à Jean-Paul II, par exemple, de ne pas s'être rendu au Rwanda. Est-ce que le pape François a appris la communication, les erreurs éventuelles de ses prédécesseurs, Isabelle de Gomain?
Non, parce que dire ça de Jean-Paul II était aussi un formidable communicateur. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Et lui aussi,
mais il n'était pas allé au Rwanda.
Il n'était pas allé au Rwanda, mais François, à un moment, par exemple, on a dit qu'il va aller en Irak. Tout le monde l'a dissuadé.
C'est un projet.
C'est un projet, mais bon, pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas possible. Je veux dire, on ne peut pas non plus. Il y a des moments où c'est plus dangereux, et pour les gens de là-bas, et pour l'Église de là-bas, et pour les chrétiens de là-bas, que le pape se déplace. Donc je pense que si Jean-Paul II n'est pas allé au Rwanda, ce n'est pas parce qu'il voulait pas, c'est parce que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il y aille, sinon ce serait fait sans doute récupérer. Enfin, c'est compliqué, c'est quand même de la géopolitique de haut niveau. Donc non. Après, c'est vrai que par rapport à Benoît XVI, il est beaucoup plus à l'aise, et puis ça, Lampedusa, c'est un magnifique geste. Moi, c'est vrai que ça nous a tous fait frémir, quoi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça a été son premier déplacement. Il a fait cet hôtel avec les bouts de bois des barques. Enfin, il y avait beaucoup de symboles, etc., qui étaient très, très justes. Donc je crois que là, c'est vrai que c'était un beau geste, c'est ce que Jean-Marie Guénois a dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a la science du geste, mais Jean-Paul II l'avait aussi, il faut pas oublier ça. Et à l'époque, on disait, ah, mais c'est formidable, Jean-Paul II, il a toujours le geste qu'il faut, etc. Jean-Paul II, quand il est allé au mur de Jérusalem poser son papier, enfin moi je me souviens, c'était pareil, on le savait pas, c'était
François fait
totalement
la même chose, hein.
Extraordinaire. François fait la même chose, mais le premier à le faire, c'est Jean-Paul II. Le premier à entrer dans une synagogue, c'est Jean-Paul II.
Il s'appuie carrément contre le mur.
Oui, donc il faut voir quand même qu'il y avait...
Oui,
il vient après Jean-Paul II quand même.
Jean-Marie Guénois.
Sur Lampedusa, ce qu'on ne sait peut-être pas trop, c'est qu'en fait, il s'est opposé à la secrétaire d'État, à la diplomatie vaticane, qui lui déconseillait formellement d'y aller. Et c'est lui qui a décidé d'y aller envers et contre tout. C'est un homme qui a du cran et qui s'est dit « je dois y aller et j'irai ». Quoi que vous en disiez. Donc, c'est aussi une grande différence. C'est qu'il a cette liberté d'aller quand il le peut. Et c'est vrai que s'il l'avait pu, il serait déjà allé en Irak. Il voulait d'ailleurs que l'avion se pose au retour de Corée en Irak pour aller soutenir les réfugiés. Donc, il est comme ça. C'est un homme qui a du cran, effectivement. Et c'est là où on voit qu'on passe du pape média, dont vous parliez tout à l'heure, au pape un peu essentiel. Cet homme qui se pose, qui justement pose, tape du poing sur la table quand il le faut.
Lorsqu'on suit le pape en tant que journaliste, Laetitia Saavedra, s'il y a bien l'endroit où il faut se trouver, c'est dans l'avion. Lors de ses voyages, il se dit des choses très importantes dans l'avion papal.
Oui. Qui suis-je pour juger?
C'est le retour du Brésil.
Le retour du Brésil. Là, appeler les musulmans, philosophes, politiques, universitaires à condamner le terrorisme, c'est dans l'avion. Effectivement, c'est... Alors, Isabelle de Gomain disait, Benoît, lui, c'était dans l'avion qui faisait ses gaffes. Donc là, effectivement, un pape, il faut le suivre dans l'avion.
Alors, sur la question de l'homosexualité, quand même, qui suis-je pour juger autour du Brésil, le synode, quand même, ouvre le débat. C'est pas fermé. Il semble qu'il y ait le synode qui s'est tenu en octobre, qui a débuté en octobre. Est-ce que dans vos journaux, vous avez une position, un engagement particulier vis-à-vis de ces questions cruciales? Ou alors est-ce que vous laissez bien les lecteurs se faire leur propre opinion là-dessus?
Le fait, c'est que, me semble-t-il, si vous permettez...
Mais allez-y, Jean-Marie Guénois.
Non, mais franchement, c'est un fait d'actualité incroyable qu'un pape dans un avion, j'étais présent, dise qui suis-je pour juger des homosexuels. Donc le synode, il est fait, ça y est. Le pape s'interdit, en tant que pape de l'Église catholique, de porter un jugement sur les personnes. Alors on le savait, le catéchisme de l'Église catholique le disait, c'était écrit noir sur blanc, mais il fait passer en quelque sorte de la théorie à la pratique. En une phrase, génie du geste, génie du verbe. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on n'a pas à dire alors, on va changer. C'est de l'info, ça devient de l'info, c'est une info très puissante. Alors que, au moment du synode, il y a un mois, les cardinaux se soient bouffonnés parce qu'il n'y a pas d'autres mots sur ce thème-là et d'autres sujets. On doit aussi informer de ces querelles intérieures et qui montrent un certain malaise aussi autour de ces questions-là. Mais je ne crois pas que la question se pose à voir est-ce qu'on doit faire attention ou pas. Ça devient, et justement, c'est un peu ça aussi, cette nouveauté, c'est que ce pape a le génie de poser sur la table des sujets d'actualité qui étaient peut-être un peu trop complexes, trop nuancés, etc. et les pose de façon nette, claire, des problématiques fortes qui, justement, passe très bien sur le plan médiatique.
Alors, est-ce que vous avez interrogé des homosexuels catholiques ?
Ah oui, bah ça fait longtemps, on n'a pas attendu le pape François
pour
le faire.
Mais là-dessus,
là-dessus. Mais effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que la force du pape François, ça a été de dire « on va parler de ce qui fâche ». Et en fait, ça fait au moins 20 ans que dans l'Église, on ne parle plus de ce qui fâche, notamment au niveau romain, mais même au niveau français. Parce qu'on n'ose pas. Parce qu'en fait, on n'est pas d'accord. On n'ose pas dire qu'on n'est pas d'accord. Parce que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle la communion. Et on ne sait pas bien, quand on est en communion, polémiquer. Donc on n'ose pas dire qu'on n'était pas d'accord. Donc on n'en parle pas.
Marie-Hédère Grand, les déclarations du pape, on l'a vu à Lampedusa, on l'a vu sur l'homosexualité, ont d'autant plus d'écho qu'elles sont formulées clairement et qu'elles viennent d'une grande personnalité.
Oui, je crois que ça montre en creux le manque de personnalité ayant une pensée claire. Ça, c'est, vous l'avez dit là à l'instant, c'est très difficile. Alors, les journalistes ont un peu quand même une responsabilité. Là. Il y a le problème de
merci.
Oui, mais les journalistes doivent être aussi interrogés là-dessus. Et souvent, on les entend dire, c'est au lecteur ou c'est à l'auditeur de se faire une opinion. Et au final, il n'y a personne qui prend une place, disons, de gros éditorialiste qui a une pensée, au risque d'être bête, au risque de se tromper, au risque de cliver commercialement les publics. Or, il faut faire cela dans une démocratie vivante, dans un monde vivant. Si on oublie un tout petit peu ce merveilleux pape médiatique, je crois que c'est ça la leçon à retenir. L'engouement pour lui est le signe d'une attente très très forte dans le grand public, de paroles fortes qui l'aident à se structurer.
Thibaut Henton, notre regard sur les images. Vous avez sélectionné une photo qui montre l'invasion ou la fausse invasion des tablettes et des smartphones parmi les fidèles au Vatican.
Oui, c'est une image de la place Saint-Pierre à Rome qui avait circulé au moment de l'investiture de François en 2013. On acquiesce autour de la table une foule et au sein de cette foule, des centaines et des centaines d'écrans brandis au-dessus des têtes pour immortaliser la scène. Cette photo est devenue virale parce qu'on l'a comparée à une autre, prise au même endroit 8 ans plus tôt en 2005 au moment de l'investiture de Benoît XVI, mais sans écran dans les mains des fidèles elle. La comparaison entre ces deux photos prises à 8 ans d'écart a nourri le discours vitupérant contre notre aliénation technicienne, notre incapacité à vivre pleinement les choses, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Préférant disposer un écran entre nous et la réalité, un filtre qui fait écran, un appareil d'enregistrement qui destine la scène en train d'avoir lieu au souvenir plutôt qu'à la vie, à un futur passé. On pourrait gloser longtemps sur le sujet. L'Église elle-même ne se disait-elle pas victime en 2012 d'une apostasie silencieuse attribuée aux nouvelles idoles que sont la science et la technologie ? Sauf que la photo de 2005 ne racontait pas tout à fait cette histoire. Elle ne montrait non pas l'investiture de Benoît XVI, mais celle de la veillée funèbre de Jean-Paul II, peu après sa mort. On comprend mieux que les fidèles, par décence, n'aient pas cherché à immortaliser ce moment et ranger leurs téléphones et tablettes. Lesquels n'étaient pas absents, même s'ils n'étaient certes pas aussi répandus qu'aujourd'hui, puisque, selon des chiffres parus cette semaine, 1,3 milliard de smartphones, téléphones intelligents ou espions, traduisez comme vous préférez, ont été vendus en 2014.
Thibaut Henneton, l'actualité de la semaine à l'étranger. Nous allons à Washington retrouver notre correspondant aux États-Unis, Frédéric Carbone. Bonjour Frédéric.
Bonjour Frédéric.
Alors on a beaucoup parlé des méthodes de la police aux États-Unis cette semaine, mais est-ce que chez vous, la presse américaine est elle aussi papophile ?
Ah ben disons que la papophilie de la presse américaine ne date pas de ces derniers jours ou de ces dernières semaines. Je vous propose de remonter près d'un an en arrière.
Pope Francis is Time Magazine's Person of the Year. He was the first pope from the New World.
Voilà, nous sommes à la mi-décembre 2013 et ce que vous entendez, c'est l'annonce du célèbre prix de la personnalité de l'année par le magazine Time, prix décerné au pape François, à la fois écrivait le journal pour le côté historique de son élection, premier souverain pontife du Nouveau Monde, et pour la curiosité, l'intérêt suscité par son profil. Alors un an après, aux États-Unis, l'actualité du pape François, c'est l'annonce toute récente d'une prochaine visite. Ce sera en septembre 2015. Le motif, c'est la grande conférence sur la famille à Philadelphie, mais il sera aussi reçu avec tous les honneurs à Washington, raconte le Wall Street Journal, en particulier le Congrès américain, où chaque séance s'ouvre par une prière, a fait savoir déjà qu'il souhaitait que le pape prononce un discours. Pour autant, selon le New York Times, le clergé américain n'est pas forcément totalement à l'aise avec ce nouveau chef de l'Église catholique romaine. Les évêques étaient réunis au début du mois à Baltimore. Ils se divisent en fait en trois catégories. Les partisans sans la moindre réticence, avec à leur tête celui qui vient justement d'être nommé par le pape François, archevêque de Chicago. C'est un des plus puissants postes aux États-Unis. Puis il y a, ils sont nombreux et c'est intéressant, tous ceux qui se demandent quelles sont les intentions précises du pape. Vous en avez parlé avec vos invités là, ces dernières minutes. Et là, c'est l'ancien président de la conférence épiscopale qui parle et qui demande que souhaite-t-il exactement que l'on fasse, quelle est sa position exacte sur le mariage et la famille. Et enfin, il y a des opposants, une frange traditionnellement conservatrice de l'Église américaine, dont la figure principale est le cardinal Burke, qui appartient à la curie romaine, qui s'est opposé publiquement au pape François et qui du coup a perdu son poste. Donc vous le voyez, la presse américaine très intéressée par ce pape, l'Église américaine, ben peut-être Frédéric un peu plus circonspecte.
Alors la fracture raciale et les méthodes brutales de la police, c'est le sujet qui a dominé chez vous après la relaxe de deux policiers par des grands jurys à Ferguson et à New York. Il y a eu beaucoup de commentaires, Frédéric, et de témoignages dans la presse aux États-Unis. Hein.
Oui, c'est l'occasion d'une véritable introspection. Les journaux ont un parfum ces jours-ci des années 60. Je vous cite par exemple un éditorial du Washington Post où l'auteur emploie l'expression « No country for black men », pas de pays pour les noirs. Eugène Robinson écrit « Ceux qui ont épousé le mythe de la société post-raciale étaient soit naïfs, soit mal intentionnés. Dire que le racisme est une chose du passé est absurde et nous en voyons aujourd'hui tragiquement l'illustration. » Dans le même registre, mais sous forme de témoignage, c'est un comédien américain, Kamau Bell, qui s'exprime dans Vanity Fair. Il fait la même taille que Michael Brown, le jeune homme tué à Ferguson et dont le policier Darren Wilson a déclaré devant le grand jury qu'il avait l'impression qu'un monstre se précipitait sur lui. Et il raconte ce qui lui est arrivé en Californie où il vit près de Berkeley un soir dans une petite épicerie. Il achète une glace, il se trompe sur le prix. 1,25$, il croit, au lieu de 2,25$. Je vous passe les détails de l'incompréhension, des regards ambigus. Ça se termine par le gérant qui sort une arme, qui appelle les policiers, et une grosse frayeur pour Kamau Bell qui conclut « J'ai trois tares, je suis un homme, noir et grand ». Vous mesurez avec toutes ces histoires l'ampleur du travail pour restaurer la confiance envers la justice et la police, l'ampleur de la tâche que s'est assignée Barack Obama en disant « Ce n'est pas une question de race, c'est une question américaine ». Mais à lire un sondage que détaille le site Vox, effectué après la décision de Ferguson, la réalité semble bien différente. 85% des Noirs trouvent injuste le non-lieu envers les policiers, 60% des Blancs pensent au contraire que c'est parfaitement normal. Et un détail dans le Sud, les États qui ont aboli en dernier l'esclavage, les trois quarts des Blancs ont cette opinion. Après, sans doute, il ne faut pas généraliser, suggère un commentateur iconoclaste. Joe Scarborough a été élu républicain, un bébé Reagan. Il est la vedette maintenant de la télévision du matin sur NBC. Et dans Politico, il explique que l'an dernier, il a été qualifié de traître par ses amis parce qu'il défendait Trayvon Martin, tué par un vigile en Floride. « Cet été, au contraire, écrit-il, j'ai été quasiment assimilé au Ku Klux Klan parce que j'exprimais des doutes sur ce qui s'est passé à Ferguson. » Et là, je répète qu'à New York, la police a souvent un usage excessif de la force et que le policier impliqué doit être sanctionné. Invitation donc à une réflexion au cas par cas. Mais est-ce possible? Et surtout, est-ce bien adapté à la réalité de la situation aujourd'hui?
Frédéric Carbone, pour finir, vous vouliez nous parler de Noël qui approche et vous avez un petit cadeau, le meilleur de ce que l'on peut entendre à la radio américaine ou sur les podcasts en accès libre et gratuit, c'est cela?
Ouais, deux petits bijoux, des raretés, impossibles à produire en circuit normal, mais qui sont effectivement disponibles sur n'importe quel ordinateur ou, je ne sais plus ce que vous disiez, 1,3 milliard de smartphones vendus cette année. Alors d'abord, une forme de comble de snobisme. Je vous laisse écouter ça.
This is the Bret Easton Ellis podcast, and I'm here today with the filmmaker James Gray. The great American cinematographer Gordon Willis died last week at the age of 82. For those of you who don't know who Gordon Willis was,
Voilà, c'est bien Bret Easton Ellis dans son petit studio à la maison à Los Angeles. L'auteur d'American Psycho reçoit chaque semaine un invité, là le cinéaste James Gray, pas pour parler du dernier livre ou film de ce créateur, mais pour une conversation sur l'Amérique d'aujourd'hui, sur les grands sujets de société. Bret Easton Ellis parle plus souvent que son invité. C'est chic, gratuit et indispensable. Et l'autre conseil, je vous passe pas d'extrait parce qu'on est dans une toute autre démarche, peut-être on n'a pas le temps non plus, c'est comme une série télé à la radio, l'équivalent des documentaires de Jean-Xavier de Lestrade sur la justice américaine. Ça s'appelle Serial. Là encore, podcast Serial, accessible à un seul clic. Une enquête menée par une journaliste sur le meurtre d'une jeune femme, voilà 15 ans. La saison 1 est en cours, des épisodes d'une demi-heure à une heure. On pense à Twin Peaks, sauf que c'est du pur journalisme et ça marche. Plus de 2 millions d'auditeurs pour chaque épisode, un phénomène qui dépasse d'ailleurs déjà le cadre des États-Unis. Serial, podcast gratuit.
Merci Frédéric Carbone, le correspondant que toute la presse française nous envie, correspondant de Radio France à Washington. Le clin d'œil de Yacine Bouzard. Yacine, très inspiré aujourd'hui par l'évangile de Luc et Emmanuel Macron, ministre de l'économie.
Évangile de Luc, chapitre 16. Jésus dit à ses disciples :
il y a non pas des entrepreneurs, il y a des représentants du patronat qui ne sont pas contents. C'est pas la même chose.
L'économe dit en lui-même :
la charge est en effet très politique. Je réponds par des réponses économiques.
Que ferais-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai.
Enclenchons une baisse des impôts tous les ans, en nombre et en volume, et en valeur.
Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui.
Supprimons aussi les impôts symboles, dogmatiques. Supprimons l'ISF.
Jésus leur dit :
voilà comment dans notre pays de suffrage universel, c'est encore une classe ayant ses traditions propres et son égoïsme qui domine les assemblées et gouverne la nation. Seulement, toute politique de caste et d'égoïsme à l'heure présente doit disparaître. 29 octobre 1887, Jean Jaurès.
Le clin d'œil libre, inspiration de Yacine Bouzard. Merci à tous, l'émission touche à sa fin. Les journalistes sont-ils devenus papophiles ? Merci à nos invités, Jean-Marie Guénoir, rédacteur en chef au Figaro, publié chez La Thèse jusqu'où ira François. Je signale également le numéro événement du Figaro consacré au pape François. Bernadette Sauvager, journaliste à Libération, vous avez publié Le Monde, selon François, les paradoxes d'un pontificat aux éditions du Cerf. Isabelle de Gaumin, responsable du site du journal La Croix, lacroix.com, et votre livre Un pape pour tous est publié au Seuil. Laetitia Saavedra, merci. Laetitia était également avec nous, spécialiste à France Inter des religions, de la laïcité et de la famille. Nos deux regards extérieurs qui nous ont accompagnés, Mariette Darigrand, notre sémiologue au secret des sources, et Thibaut Henton pour les images et le web. Merci à tous les deux. Un grand merci à Frédéric Carbone, également notre correspondant à Washington, dans les coulisses de l'émission, les indispensables Vincent Abouchard, Mathias Mégy pour la préparation et la réalisation de l'émission, avec aux manettes Jean Frédérics. Dans un instant, le journal de Mathieu Laurent, suivi de répliques. Picasso face au visage. Alain Finkielkraut reçoit Stéphane Guégan et Jean Clerc. C'était Le Secret des Sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique. Bonne journée sur Culture. Jean-Marie Guénoir, vous êtes d'accord, c'est une star, le pape François.
Il a ce sens des gestes à Bethléem. Il fait arrêter la papa mobile devant le mur de séparation. Et tout ça est calculé. C'est pas du tout un enfant de cœur, c'est un homme politique. Il pose des gestes.
Il faut savoir que tous les mercredis, le pape remplit l'équivalent du Stade de France quand même. Benoît XVI, il faisait ses audiences générales, je crois, dans une petite pièce fermée. Là, c'est la place Saint-Pierre entière.
Il a une valeur iconique, on voit tout de suite qui c'est et on voit tout de suite pourquoi on veut aller vers lui. Son magnifique sourire en forme de smiley, quasiment, c'est une marque qui se voit tout de suite. C'est ça, c'est une...